When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, une émission dans laquelle on parle généralement d'actualité, tech, internet, gadgets. On vous dit ce qui se passe dans le monde merveilleux de la technologie et la manière dont ça influence la société dans laquelle nous vivons et tous ses aspects. Mais aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque nous faisons un épisode spécial sur un sujet spécifique et spécial, l'informatique quantique. Alors c'est un sujet complexe qu'on va essayer de débroussailler et heureusement, je ne suis pas seul, je suis avec deux invités de prestige et de talent. On va commencer, honneur aux dames, on va commencer avec Fanny Bouton, dont je me souviens avoir fait un épisode de « On refait le Mac » il y a bien longtemps, avec qui j'ai fait un épisode de « On refait le Mac » avec notre ami Olivier, mais c'était il y a bien longtemps. Et tu es aujourd'hui Quantum Lead chez OVH Cloud, un travail qui a l'air quand même assez important et lourd. Comment ça va, Fanny? Comment vas-tu?
Ça va bien depuis ces quelques années, en effet. Je continue à faire des podcasts en parallèle, justement sur le quantique, Quantum et Décode Quantum, accompagné d'Olivier Ezrati. Mais en effet, j'ai fait un shift du journalisme et de la détection des talents dans la tech à les accompagner dans le cadre d'un start-up programme. Et puis, ça a dérivé vers le quantique parce que l'informatique quantique arrive. Moi, je m'étais passionnée pour le sujet. Et il y a des choses à faire dans le cloud et on va pouvoir en parler après. Mais voilà, donc ravi de te retrouver et de pouvoir discuter de ce sujet passionnant.
Mais pareil. Je suis très curieux de tous ces sujets. On va essayer, comme je le disais, de débroussailler tout ça. Et pour nous aider également, on a le plaisir de recevoir Pablo Arrighi, professeur à l'Université de Paris-Saclay. Bonjour Pablo, comment vas-tu ?
Bonjour à tous, très bien. Donc effectivement, moi je suis pas podcasteur, hein, mais peut-être que je vais pouvoir éclairer un petit peu le sujet.
Le début d'une carrière, Pablo, le début d'une carrière, on va commencer quelque chose.
Qui sait ?
Oui, pardon, donc tu disais tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu sur les aspects un peu plus techniques du sujet.
Voilà, c'est ça. Si je termine peut-être de me présenter. Donc,
vas-y.
Professeur à l'Université de Paris-Saclay, où on a une équipe de recherche qui s'appelle Quantum Computation Structures. Donc on s'intéresse vraiment aux structures de calcul quantique, aux langages de programmation quantique. Et c'est une équipe qui a plusieurs tutelles, l'université, donc, mais aussi l'ENS Paris-Saclay, l'École Centrale et INRIA, l'Institut de Recherche INRIA.
Qu'on remercie d'ailleurs parce que c'est par leur intermédiaire qu'on s'est rencontrés. Donc... Un petit salut à eux. Super. Bah écoutez, on va faire une émission comme d'habitude, ambiance détendue. Hein, donc, je vais dire sans doute beaucoup de bêtises. Vous n'hésitez pas à me le signaler. Vous dites « Ah, oh, Patrick, ça va, hein, c'est bon. Arrête, laisse-moi parler. Moi, je sais de quoi je parle, contrairement à toi. » Et ça sera une amélioration notable de l'émission. Mais on va commencer peut-être parce que l'informatique quantique, c'est quand même un petit peu... nébuleux comme sujet. On va peut-être commencer par l'informatique. On connaît, on sait qu'il y a des composants électroniques qui transportent des électrons, des bits qui peuvent être dans un état de 0 ou 1. Et à partir de là, c'est la base de l'informatique. L'informatique quantique, c'est quand même une différence. C'est peut-être le plus grand changement dans l'informatique, dans les structures, dans la base de l'informatique depuis sa création. Mais c'est quoi ? Je ne sais pas si qui sera plus à l'aise pour nous dire comment est-ce que fonctionne un ordinateur quantique, qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec un ordinateur quantique, et puis surtout en quoi c'est différent d'un ordinateur classique, comme introduction. Est-ce que Fanny ou Pablo, qui veut prendre cette première question qui n'est pas évidente, c'est quoi l'informatique quantique ?
Pablo, je pense que c'est bien que tu commences par le, puisque tu vas avoir le côté très scientifique et tout. Et moi, je suis très spécialisée pour le revulgariser derrière aussi et peut-être le simplifier.
Ça marche. Alors, du coup, Pablo, dis-nous, l'informatique quantique, c'est quoi ?
Je peux me lancer. Alors déjà, si on part du classique, donc un bit d'information, on dit c'est 0 ou 1. Mais 0 ou 1, on peut l'encoder dans la matière de plein de manières différentes. Ça peut être un champ magnétique qui va vers le haut ou vers le bas. Ça peut être mon crayon que j'ai posé sur la table ou que j'ai laissé traîner par terre. En fait, il suffit qu'il y ait un système physique qui ait deux états possibles pour que ça nous encode 0 ou 1. Déjà, partons de ça.
Tout à fait.
Ensuite, donc le qubit, ça va être pareil. On va l'encoder dans la matière. On va l'encoder dans, par exemple, un électron qui va être dans la couche supérieure de l'atome. Il va être excité ou pas excité. Ou peut-être qu'on va avoir une polarisation d'un photon qui va être selon un axe ou selon un autre. Ou peut-être que l'électron va être spin-up ou spin-down. C'est-à-dire que ou peut-être qu'une particule va être à gauche ou elle va être à droite. On va juste prendre deux situations et ces deux situations vont constituer le 0 ou 1 quantique. Mais la nouveauté, c'est que puisque on est dans les petits systèmes, les particules, les atomes, de petites molécules bien isolées du reste du monde, la nouveauté, c'est que dans ce petit monde isolé, il commence à se passer des choses très bizarres, très, très fascinantes, qui sont liées au principe de superposition. C'est-à-dire que finalement, cette particule, on ne va pas tellement bien savoir si elle est à gauche ou si elle est à droite, elle va être quelque part un petit peu les deux à la fois, en superposition quantique. Donc ça va être ça le qubit, ça va être l'idée d'être un petit peu à gauche et un petit peu à droite simultanément dans des proportions.
Du coup...
Vas-y, Fanny. Je le formulerai un tout petit peu plus simple, mais c'est de dire, en gros, maintenant, on sait comment fonctionnent les ordinateurs, c'est sur classique, hein, c'est sur du silicium, les transistors sont faits dans du silicium, et les fameux 0 et 1, c'est un courant qui passe ou qui ne passe pas pour faire ce 0 et ce 1, et ça, on le maîtrise parfaitement, et c'est sur un seul matériau maintenant qu'on le fait. Hein. Le qubit, ce qu'il y a d'intéressant actuellement, c'est en effet qu'il a ses particularités sur lesquelles on va revenir de la physique quantique et qui sont de la seconde révolution quantique, mais qui sont, on sait les manipuler, et donc il y a tout ce qui est quantification, dualité onde particules, superposition d'état et intrication. Ça, je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu dessus. Mais ça fait que ce qubit a un comportement qui fait qu'il peut être 0 et 1 à la fois et qu'on peut faire beaucoup plus de choix de calcul et de calculs différents. L'autre chose intéressante, c'est qu'on ne sait toujours pas sur quel matériau ça va être le mieux un qubit, et qu'actuellement dans la course au quantique, ne serait-ce qu'en France, on a 6 technologies, 6 matériaux sur lesquels on travaille à créer ces qubits pour le prochain ordinateur quantique, qui va lui accélérer de façon exponentielle la vitesse de certains types de calculs.
Alors attends, on va parler des applications dans un moment, mais je voudrais qu'on revienne effectivement sur cet aspect que tu évoques et que Pablo évoquait aussi. Moi, qui m'intéresse en amateur à ces questions, je pensais que cet aspect technique, même au niveau de la physique, était un petit peu réglé, c'est-à-dire qu'on savait quel type de particules on allait utiliser fabriquer en quelque sorte des bits quantiques, des qubits, donc ces bits qui peuvent être 0 et 1, enfin 0 ou 1, ou 0 et 1 en même temps. Mais ce que vous me dites, et ce que tu me disais, Pablo, c'est qu'en fait, on a à ce stade plusieurs types de particules qu'on va utiliser, et qui ne sont même pas forcément des petites particules, des photons ou des électrons, mais ça peut aller jusqu'à l'atome, ou même des petites molécules qui vont être... Une molécule entière peut être un qubit, c'est ce que tu me disais en préparant l'émission.
Alors oui, tout à fait, c'est tout à fait exact ce que disait Fadi, c'est-à-dire qu'actuellement, on ne sait pas vraiment de quoi va être fait l'ordinateur quantique, est-ce qu'il va être photonique, Est-ce qu'il va être fait à coup de qubits supraconducteurs? Donc ça, ce serait, on va dire, un petit peu plus proche de l'électronique actuelle. Ou est-ce que ça va être des atomes froids qui sont capturés par, dans une, comme dans une barquette d'œuf par des grilles de laser? Ça, c'est toute une technologie qui se développe aussi très bien en France. Des ions piégés. Enfin oui, il y a toute une variété, tout un bestiaire de support physique possible. Et on ne sait pas trop lequel va remporter la bataille.
D'accord. Et du coup,
ils ont tous des avantages et des inconvénients. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette course-là, il y en a plusieurs choses qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir en mettre beaucoup ensemble et pouvoir tous les intriquer pour que ça fonctionne et que ça donne cette puissance de calcul. Et il y en a, d'en mettre plein les uns côté des autres, mais il faut refroidir à une certaine température, il faut les piloter d'une certaine façon. Et ça peut générer du bruit qui fausse les calculs. Et puis, il y en a d'autres, on arrive à en mettre très peu. Et ils sont très, quoi, on peut en mettre moins, ils sont plus... Mais on n'arrive pas à en mettre plein les uns à côté des autres. Et donc là, tout le monde est en train de chercher, c'est comment arriver à mettre tous ces qubits ensemble et à les faire travailler ensemble sans qu'il y ait de bruit, en ayant le moindre refroidissement possible, si c'est possible. Voilà, il y a plein de challenges scientifiques à résoudre pour les faire marcher, ces machines.
Et du coup, à ce stade, on en est à quelques dizaines, quelques centaines de qubits pour une machine, et pas plus. Donc, c'est à peu près cet ordre d'idée, hein. C'est ça ?
Ouais, bah là, il y a IBM qui, je crois, il y a quelques jours, a annoncé 433 qubits. Je sais pas exactement s'ils sont très solides, leurs qubits, s'ils sont très bruités, mais...
Le problème, c'est que plus ils en mettent, pour l'instant, moins les résultats sont efficaces. Et ça, c'est une problématique. Mais par contre, c'est vrai qu'ils arrivent à en mettre de plus en plus ensemble et qu'on arrive à faire ce qu'on peut faire des codes de correction d'erreur qui permettront d'éviter les effets de ces bruits. Mais là, on est rentré déjà dans quelque chose de très technique, hein. Mais ce qu'il y a d'intéressant à voir là maintenant, c'est en effet, c'est quelle va être la même matière. Il faut savoir que dans l'informatique classique, tout au début, c'est pareil. Hein, on ne savait pas que ce serait le silicium qui ferait les transistors. On a testé plein de choses à l'époque, y compris, si je me souviens bien, avec des systèmes avec des ampoules. Hein,
C'est de là que viennent les
0 et des 1.
Que viennent les bugs, d'ailleurs. C'était les insectes qui venaient griller des morceaux de... Ah non, peut-être pas. Peut-être pas dans les ampoules.
Non, ouais. C'est pas forcément là, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui a d'intérêt. Et l'autre chose intéressante, moi, je trouve, dans l'histoire, c'est que sur cette dizaine de technologies différentes, la France est très bien placée, la recherche française est très bien placée, parce qu'on a ces technos qui se développent en France sur la dizaine qui existe dans le monde entier.
On a combien tu as un peu coupé, pardon.
On a 6 actuellement sur la dizaine, et on en a une dans chaque grande catégorie importante de la physique quantique. Et ça, c'est un gros avantage pour la France et pour l'Europe, parce qu'on a des très bons chercheurs et qu'on sait les former et qu'on sait faire la recherche dessus. Mmh. Et ça a donné la naissance de start-up qui sont les ordinateurs de demain.
Du coup, avant qu'on parle d'application, parce que bien sûr, c'est le truc qui va être le plus intéressant, et on va venir à ces sujets, mais on a un petit peu passé... On est un petit peu passé rapidement sur cette question de superposition quantique où on dit, bah oui, les qubits, ils peuvent être 0 et 1 à la fois. Je ne sais pas si ça va être une question un petit peu trop technique, un petit peu trop scientifique pour le sujet qu'on aborde et les auditeurs, mais c'est des trucs qui m'intéressent, moi. Et peut-être que je vais poser la question à Pablo, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire que... un bit quantique, un qubit, peut être 0 et 1 à la fois. Qu'est-ce que c'est informatiquement il est les deux à la fois, ça ne sert à rien s'il est les deux à la fois au niveau de l'informatique ou...
Non, mais tout à fait, j'avais envie d'essayer d'expliquer ça parce que je trouve ça toujours un peu embêtant, ces slogans finalement où on dit « ah, c'est les deux à la fois » et puis on ne comprend pas ce que ça veut dire et au final, on n'en retient rien du tout. Donc j'aimerais bien essayer de donner une vraie intuition sur ce que ça signifie. Alors, une première intuition qu'on pourrait avoir, en première approximation, on pourrait se dire que c'est à la fois 0 et 1, c'est comme des probabilités, c'est comme une sorte de distribution de probabilités. On pourrait se dire, ça veut dire que mon qubit, il a une chance sur deux, quoi. Soit il est 0, soit il est 1. Alors ça, c'est première compréhension qui est pas mal, mais qui n'est pas tout à fait exacte. En vérité, pour mieux comprendre ce que serait la mécanique quantique, il faut peut-être penser, comme le disait Feynman, à une théorie des probabilités négative. C'est-à-dire que le qubit, il va être peut-être avec une certaine probabilité 0, et avec une certaine probabilité peut-être moins 1,5, il va être 1. Et c'est ça qui est super bizarre et qui est super magique. Il faut essayer de s'imaginer un monde où il y a des probabilités qui peuvent être avec des signes moins. Et ça peut faire des différences très concrètes. Et j'aimerais bien essayer de donner une petite analogie, une petite image qui expliquerait en quoi ça change la donne, les probabilités négatives.
Ah bah vas-y, oui, parce que les probabilités négatives, ça me parle pas énormément, tu vois. Une probabilité, je peux comprendre, mais la probabilité négative, ouais, explique, ça m'intéresse là.
Ok. Donc, il faut imaginer qu'on veut aller d'un point A à un point B et qu'il va y avoir des étapes intermédiaires. Par exemple, pour aller de A à B, peut-être qu'il faut que je passe par X ou peut-être qu'il faut que je passe par Y. Bon, pour être plus concret, j'ai regardé le plan de la France là tout à l'heure. Imaginons que je veux aller de Paris à Perpignan par le TGV. Et en fait, j'ai le choix. Soit je peux passer par Bordeaux, soit je peux passer par Lyon. Il y a deux manières d'aller à Perpignan. Et imaginons que, je ne sais pas, je tire ça à pile ou face. Je vais avoir une chance sur deux, soit je passe par Bordeaux, soit je passe par Lyon. Mais finalement, quelles sont les probabilités que je me retrouve à Perpignan au final? Bah, ça va être 1,5 plus 1,5, ça va être 1. Quoi. Au final, que je sois passé par Bordeaux ou par Lyon, peu importe, j'arrive à Perpignan.
Ok, jusque-là, ça, je suis logique, très bien.
Ça, c'est la logique probabiliste classique. Maintenant, quand on passe dans le quantique, on commence à avoir cette idée de probabilité négative. Et donc, il va y avoir cette idée que je peux dire, ok, bon, bah, je vais aller vers Perpignan, je vais aller avec une probabilité 1,5 à Perpignan par Bordeaux et avec une probabilité moins 1,5 à Perpignan par Lyon. Ok. Bon, bah, quelles sont les chances pour que j'arrive à Perpignan comme ça? C'est 1,5 moins 1,5, bah, ça fait 0. En fait, je vais juste pas arriver à Perpignan. Alors, là, mes trucs ne sont pas tout à fait à 1, donc si je voulais rendre cette histoire un peu rigoureuse mathématiquement, il faut que je mette 1 sur racine de 2, il faut qu'il y ait d'autres possibilités, et au final, je vais me retrouver à Cannes ou à Quimper dans l'histoire, mais il faut quand même que j'arrive quelque part, parce que je ne peux pas n'arriver nulle part.
D'accord.
Mais disons que cette manière de circuler sur un réseau avec des probabilités, comme si j'étais un marcheur aléatoire, mais des probabilités négatives, qui ont ces effets où finalement deux possibilités s'annihilent entre elles, c'est exactement ce que font les particules quantiques, et c'est exactement la manière dont l'ordinateur quantique va explorer les possibilités.
C'est-à-dire que, dis-moi si je comprends bien, mais ce que je perçois plus ou moins dans ton explication, c'est que en regardant le résultat de ton voyage vers a priori Perpignan, mais on n'est pas sûr du coup, eh ben, ça ne va pas te donner juste des informations sur le chemin que tu as pris, qui serait donc, on va dire, pour symboliser une donnée, mais ça va te donner des informations sur les différents chemins que tu aurais pu prendre, et donc ça va te donner, en l'occurrence, deux points de données, ou peut-être même plus, je ne sais pas. Mais c'est en regardant le résultat, tu vas avoir des informations sur les possibilités que ça aurait pu prendre, et donc tu auras plus d'informations qu'avec un raisonnement classique où tu n'aurais eu une information que sur le chemin que tu as pris. C'est ça?
Alors, c'est plutôt...
J'aurais tellement voulu que tu me dises oui, Patrick, t'as tout compris, exactement, c'est pile ça.
Est-ce que je peux essayer une autre façon de le voir?
Alors,
c'est un exemple que j'aime bien, mais tu me diras, Pablo, si ça correspond à ce que tu disais aussi, mais c'est le schéma du labyrinthe, en fait. T'as un labyrinthe, Et en général, avec les technos actuels, bah, on va prendre tous les chemins un par un, on va les annoter et on va voir lequel est le plus court. Et tu connais la façon de savoir, mais ça t'a pris du temps de faire tous les chemins un par un et de sortir du labyrinthe. Mais tu connais toute la trajectoire et surtout, tu sais quelle est la meilleure. Si tu le fais en quantique, ça va explorer toutes les trajectoires en même temps et tu auras plus court, mais on ne t'expliquera pas comment tu es sorti du labyrinthe. On t'aura donné le trajet le plus court. Donc, c'est une façon imagée un petit peu différente. Par contre, le résultat, il est instantané. Tu aurais le résultat du meilleur trajet tout d'un coup sans savoir quels ont été les autres.
D'accord. OK. Donc, on a cette même idée qui est un petit peu... qui permeates les deux explications. Ce flou sur le chemin, mais en l'occurrence, dans l'exemple de Pablo, pour essayer de réconcilier les deux, tu nous disais, dans ton exemple, on ne sait pas vraiment où on est arrivé au final. On est peut-être à Perpignan, peut-être à Cannes, peut-être... Mais avec les probabilités négatives, du coup, on arrive pas forcément quelque part.
Alors non, je pense que c'est important d'essayer de réconcilier les deux explications et ça va peut-être nous éclaircir. Donc imaginons qu'il y a ce labyrinthe ou ce réseau de trains. Les scientifiques aiment bien faire des exemples avec les trains. Einstein, il adorait les trains. on peut se dire, je vais explorer tout le labyrinthe, tout le réseau de trains. En superposition quantique, donc je vais être un peu partout à la fois. Ok, ça c'est vrai. Mais si on dit juste ça, à ce moment-là, on laisse peut-être sous-entendre que les ordinateurs quantiques ont une espèce de puissance complètement illimitée où ils arrivent à explorer toutes les possibilités à la fois et c'est absolument génial. Et alors que en fait, c'est génial, mais c'est génial que pour certains problèmes très spécifiques, ça marche pas tout le temps. C'est pas aussi magique que ça. Donc, c'est pas exactement qu'on peut explorer. On va explorer toutes ces gares à la fois, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fait que ce soit des probabilités avec des signes moins, ça va faire que il y a certaines gares où on va pas arriver. Par exemple, on va pas arriver à Perpignan parce que il y avait 1,5 moins 1,5 comme chance d'y parvenir, et donc à Perpignan on va pas y arriver. Et par contre, on va se retrouver à Cannes, à Quimper, etc. Et pour vraiment que l'algorithme quantique soit utile, il faut qu'il soit designé, et c'est vraiment pas facile du tout, il n'y en a pas 10 000 algorithmes quantiques, il faut qu'il soit designé de telle sorte à ce que les mauvaises solutions, malgré qu'il y ait plein de chemins pour y aller, en fait, elles s'annihilent, et on ne va pas se retrouver dans les mauvaises solutions. Et les bonnes solutions, tous les chemins qui nous y emmènent, dans le labyrinthe, ils interfèrent constructivement et les probabilités se somment et elles somment à 1, quoi, on va dire. Elles nous y emmènent.
Donc il faut éviter les probabilités négatives dans la manière dont tu construis ton algorithme. Mais du coup, peut-être qu'on peut parler un petit peu d'applications concrètes pour continuer à nous éclairer. Je crois que, à moins d'être vraiment chercheur, on ne va pas comprendre exactement le fonctionnement. Mais oui, pardon, Fanny.
Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est qu'on va pouvoir résoudre certains types de calculs. Et ça, c'est important à comprendre, je pense. L'informatique quantique ne va pas remplacer l'informatique classique. On va plutôt avoir une espèce de super GPU, de supercalculateur, qui va accélérer certains types de calculs. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Plutôt ce qui est justement des probabilités, mais donc c'est tout ce qui est optimisation, simulation. Et ça, c'est important aussi à retenir, c'est ces deux grandes familles. Après, on commence à parler aussi d'accélération du quantum machine learning, moins sûr. Donc, on a ces trois grandes familles qu'on peut voir et ça va permettre, en effet, et là, on va arriver sur les usages, de faire certains types de choses différentes. Donc, optimiser des portefeuilles de finances, c'est une des promesses. Optimiser des trajectoires, c'est ce dont on parlait là. Et puis, simuler des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments. Et ça, de façon beaucoup plus complexe et rapide quand on aura la puissance de calcul. Mais avant d'en arriver là, il faut préparer tous ces calculs, ces algorithmes. Il faut revoir toutes les mathématiques parce que ce n'est pas les mêmes maths que les maths classiques qu'on utilisait maintenant. Du coup, il faut refaire toute la programmation de ces algorithmes, d'émulateurs et de simulateurs. Et c'est là où c'est intéressant et qu'il va y avoir un peu de cloud aussi derrière. Et après, une fois qu'on aura ces machines dans 10, 15, 20, 30 ans, parce qu'elles vont arriver dans pas tout de suite du tout, et ça, c'est important à comprendre aussi, on pourra appliquer et mettre en marche ces choses et avoir ces résultats qui sont quand même potentiellement incroyables, hein, parce que c'est passé de calculs qui sont très, très longs sur des HPC ou qu'on ne sait pas faire sur des HPC, un temps de calcul qui pourrait être réduit à, alors l'espérance, c'est quelques minutes, mais en tout cas, ce sera beaucoup plus réduit que ce qu'on fait actuellement.
Mais du coup, est-ce que c'est ça qui est la promesse effectivement de l'informatique quantique, la réduction du temps de calcul ? Et je crois qu'on a un petit peu compris qu'on fait plusieurs calculs en même temps au lieu de devoir explorer chacun, on va dire, de manière linéaire. Mais là, je me retourne vers Pablo. Il y a, c'est parce que c'est vraiment ton domaine, l'informatique concrètement. Est-ce que quand on a un algorithme qui va peut-être, je ne sais pas si on va parler de chiffrement par exemple ou ce genre de choses, parce qu'on entend beaucoup, ah oui, le chiffrement va être cassé par l'informatique quantique. Quand on a un algorithme en informatique classique, est-ce que, et Fanny l'évoquait, on ne va pas pouvoir forcément faire le même, enfin, faire la même chose en informatique quantique, on va devoir explorer les différentes choses qu'on peut faire en informatique quantique et voir si certaines ont des applications qui étaient possibles en informatique classique de manière plus consommatrice de puissance et d'énergie, ou alors même des applications complètement différentes. Comment est-ce que ça se passe, cet aspect du travail de la construction d'algorithmes, d'exploration de ce qu'on peut faire avec ces machines ? Est-ce que, à quel point est-ce que c'est théorique aussi, j'ai envie de te demander, puisque, comme le disait Fanny, les machines qui pourront vraiment permettre de faire toutes ces choses-là, elles ne sont pas forcément encore là, quoi.
Voilà. Alors, je confirme tout ce qui a été dit, là. Donc, j'ai envie de dire plusieurs choses. D'une part, le fait que, pour moi, il y a une grande famille d'applications là, qui est était un tout petit peu qui a été dite un peu rapidement là dans ce que disait Fanny et qui pour moi est vraiment la killer app de l'ordinateur quantique, c'est tout ce qui s'appelle la simulation quantique. Alors je m'explique. Si vous regardez un peu autour de vous, vous regardez votre bureau, votre ordinateur, même un bout de mobilier ou n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est autour de vous, en fait, ça a été designé par ordinateur. Il n'y a quasiment plus rien qu'on fait à coup de, je sais pas,
oui, de dessin sur
des bénisteries ou de voilà, à coup d'artisanat. On design tout d'abord sur ordinateur et puis ensuite on le fabrique. Et la raison pour laquelle on est capable de faire ça, c'est parce qu'on est capable de simuler la physique classique. C'est-à-dire que vous pouvez designer votre ordinateur, l'objet sur votre ordinateur, et vous savez comment il va se comporter. Vous pouvez imaginer une voiture, et puis ensuite, vous la fabriquez, et elle se comporte exactement comme vous l'aviez imaginé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire à nos grandes échelles macroscopiques. Mais, curieusement, plus on va dans le petit, plus ça devient difficile à faire. Parce que dans le petit, il commence à y avoir une phénoménologie quantique que l'ordinateur classique ne parvient pas à simuler parce que c'est trop coûteux. Voilà. Et donc, par exemple, un ordinateur classique, il va être capable de simuler un électron, peut-être 10 électrons, et puis au bout de 15, il ne va plus y arriver.
Voilà. Parce que donc, exponentiellement, ça demande plus de puissance de calcul. Et, j'ai presque l'impression que il y avait des principes informatiques, si je me trompe peut-être, mais je crois qu'avant l'invention du transistor, c'était possible de faire des ordinateurs, mais le transistor a rendu les circuits tellement plus efficaces et permis de faire des choses beaucoup plus simples que ça a complètement décuplé la puissance de l'informatique. Et c'est un petit peu ce même genre de shift avec d'autres applications, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce même genre de shift dont tu parles.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre, c'est que c'est qu'on n'a pas encore la machine parfaite qui va fonctionner, qu'on ne peut pas faire les programmes et préparer tout ce qu'il va y avoir sur la machine. Tu ne sors pas un iPhone sans application dessus, tu vois, sinon ça ne marcherait pas, ça ne se vendrait pas au grand public. Mais là, c'est pareil, il y a un gros travail à faire et c'est une prise de conscience, je pense, à faire chez nous et en particulier en France, chez nos industriels, de ne pas attendre que la machine marche parce que c'est dans longtemps. Tout ce qui doit en amont et qui fera que les gens pourront utiliser la puissance de ces machines, elle se fait en amont grâce à des chercheurs, grâce à des startups en software, à chercher les cas d'usage qui peuvent être accélérés et à les développer. Donc, comme on disait, hein, et je pense, Pablo, tu penses que ce serait peut-être bien si tu peux nous expliquer un petit peu, c'est la différence mathématique qu'il y a à coder ces algorithmes et la façon de faire, en sachant qu'on se rend compte que des fois, maintenant, et ça fait que 2 ans, je trouve, qu'on commence à le voir, c'est qu'en mixant des algorithmes classiques sur de l'informatique classique, HPC accéléré, et des bouts d'algorithmes quantiques, même sur des bouts d'ordinateurs bruités faibles, on pourrait avoir des avantages quantiques, et ça, ce serait la partie intermédiaire. Mmh. Mais que là, maintenant,
la transition,
quand même quelque chose qui se passe, et qui est sur quoi on code, et comment on émule le comportement de l'ordinateur, et comment on va commencer à écrire ces codes. Et c'est là où on est dans phase qui est hyper excitante parce que tout le monde est en train de se rendre compte de ça et qu'il y a un challenge intellectuel à passer parce que c'est pas classique et habituel la façon de penser les maths quantiques en fait. Je le simplifie hein, Pablo, mais
c'est ça. Mais il y a un truc qui est classique et habituel et que je pense que tout le monde peut imaginer, c'est que si j'ai un phénomène physique super compliqué, par exemple, si je veux calculer l'aérodynamique d'un avion, si je veux le simuler sur mon ordinateur, je vais être obligé peut-être de simuler chaque particule de l'air, chaque molécule qui percute l'aile, et ça va être compliqué à faire. Mais peut-être qu'une solution plus simple, c'est de faire un mini maquette de l'avion et de le mettre dans une soufflerie, et puis là, je vais comprendre l'aérodynamique de l'avion sur ma maquette. Et en fait, là, ce qu'on est en train de s'apercevoir, et dans cette étape intermédiaire, avant qu'on ait l'ordinateur quantique parfait, on peut déjà commencer à faire ça. Ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que pour simuler le comportement des molécules, des électrons, des trucs auxquels on n'a pas accès actuellement sur nos ordinateurs classiques, et ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire comme la maquette d'avion, c'est-à-dire qu'on peut prendre des systèmes quantiques, des quelques qubits qu'on a là, qui sont un peu bruités, etc., et on peut les utiliser pour émuler des molécules qui ensuite vont servir à peut-être inventer de nouveaux médicaments, etc. Donc voilà, c'est l'idée d'utiliser des systèmes quantiques qu'on maîtrise bien pour simuler des systèmes quantiques qu'on veut explorer et parce qu'ils vont nous permettre d'accéder à des nouvelles propriétés chimiques ou électroniques, des nouveaux matériaux, ce genre de choses.
Donc, c'est tous ces calculs qui sont trop gourmands en puissance avec l'informatique classique dont on parlait, qu'on peut faire. Et c'est marrant parce que peut-être que c'est mon cerveau qui fait des connexions qui ne sont pas là, mais quand tu parles de soufflerie et d'aérodynamisme, je pense du coup à notre labyrinthe et notre parcours de train avec des molécules d'air qui vont peut-être être... On va déterminer leur point d'arrivée en explorant les différents chemins et prendre le plus court, donc qui sera celui qu'il prendra dans la soufflerie, plutôt que de calculer le parcours de chaque molécule, comme on le disait tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est effectivement ça qui se passe ou pas. Mais donc, la simulation, c'est un des domaines d'exploration importants. Du coup, je reviens vers Fanny. Tout ça, c'est bien beau. On a parlé de ce qui pourrait peut-être être fait, du type de calcul, du type d'application concrète qu'on pourrait découvrir, finalement, ou utiliser. On en est où, aujourd'hui, de ce développement? On parlait de quelques centaines de qubits. Ça permet de faire des choses concrètes? Est-ce que c'est vraiment utilisable? Où en est l'informatique quantique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est pour l'instant, on en est à trouver et à prouver les modèles mathématiquement que ça va être mieux quand on aura ces machines super puissantes. Donc forcément, pour l'instant, ça freine un petit peu. C'est de se dire, ouais, c'est quand même dans longtemps.
C'est-à-dire qu'on est vraiment au stade théorique, quoi. On est en train de faire les calculs pour essayer de voir, OK, quels algorithmes pourraient mieux fonctionner avec les ordinateurs quantiques quand on les aura, c'est ça ?
Ah, tu parlais par exemple tout à l'heure de la fameuse sécurité. Alors ça, c'est un cri au loup qu'il faut enlever aussi. Mais bon, il est médiatiquement intéressant, donc forcément, on l'entend beaucoup. On a ce qui s'appelle l'algorithme de Shor qui casse les clés publiques RSA, donc tous les chiffres à nombre premier très complexes. Et du coup, ça ferait tomber Internet, les bitcoins, la sécurité bancaire. Donc, et forcément, c'est stressant. Par contre, le fameux algo de Shor, pour le faire tourner, il faudrait une machine à plusieurs milliers de qubits intriqués, logiques, donc une super bécane qu'on n'est pas prête d'avoir. La question, c'est les données que j'ai maintenant qui sont sécurisées par les algos classiques, est-ce que dans 30 ans, si je me les fais pirater et qu'ils sont décryptés, ça craint ? Si j'ai des données, des discussions de politique entre eux qui sont classées sécurité-défense, est-ce que si j'ai des formules de médicaments qui dans 30 ans seront encore sous brevet, est-ce que je dois les protéger maintenant de l'algo de Shor qui pourrait permettre de les décoder, ou est-ce que j'ai des données c'est pas grave si on me les pirate maintenant et que dans 30 ans elles sont lues parce qu'elles sont protégées avec la sécurité classique. L'autre chose, c'est qu'on sait déjà se protéger de ça, de l'informatique classique, c'est-à-dire de la crypto post-quantique, qui n'utilise pas du tout de quantique, c'est juste d'autres méthodes de faire des maths et d'encrypter la donnée et de la protéger. On a déjà plus ou moins résolu ce problème de comment protéger la donnée de l'algo de Shor. Qui veut maintenant protéger ces données parce que c'est important que dans 30 ans, elles ne soient pas lues. Ça, c'est une vraie chose. Donc, ça pose ces problématiques-là. C'est quel est le type d'attaque ou quel est le type de choses qui va être solutionné, mais dans 30 ans, grâce à la puissance de l'informatique quantique. Là où on en est, c'est qu'on prépare soit ces protections, soit ces simulations de nouveaux médicaments, soit de trajectoires. Tout ça, il faut les préparer. Et où on en est, bah c'est plus avec ces 2, 4, 100 qubits, hein, ces 2 qubits à 10 qubits, je pense, dans le photon, on est à alors pas loin de 400 bientôt sur les atomes froids chez une start-up comme Pascal. En effet, ça ne fait pas grand-chose, si ce n'est que ça nous permet de vérifier que les calculs tournent bien, ça correspond, l'émulation et la simulation correspondent à ce qui se passe vraiment dans la machine. Et de vérifier que tout ça va faire des choses. On compte aussi qu'en effet, même avec des petites machines bruitées, on pourrait avoir des avantages. Pour l'instant, alors, dis-moi si je me trompe, Pablo, mais on n'a pas encore eu un algo quantique qui tourne, qui est utile, qui fait quelque chose. On a vu la suprématie quantique de Google qui a dit « Ouais, on a fait un algo qui a mieux tourné que sur une machine classique ». Mais en fait, c'était un algo qui servait à rien, qui aurait jamais pu marcher sur une machine classique. C'était un algo purement quantique, mais qui sert à rien. Donc, qui était facile à faire tourner. C'était un breakthrough, comme on dit dans la science, mais c'était pas un milestone. C'était pas un gros changement de paradigme. Après, ça montre qu'on évolue dans le bon sens.
Du coup, là où on en est aujourd'hui, c'est que. Pardon, Pablo, tu voulais répondre. Vas-y.
Je suis content d'avoir quelqu'un qui survend pas l'ordinateur quantique, Fanny. Mais je me demandais si 30 ans, c'était pas finalement un petit peu pessimiste, parce que si on écoute Google, ils sont plutôt sur des annonces à 10 ans. Ils annoncent qu'ils vont avoir 1 million de qubits avec dans 10 ans. Bon, je sais pas si vous les croire ou pas. Mais...
ça 15 ans, 10-15 ans en moyenne. Je pense que ce sera le plus optimiste pour avoir une machine qui aura de la puissance. Mais certains modèles, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des paliers technologiques à passer en fonction des types de qubits et de savoir lequel sera le mieux ou lesquels vont fonctionner le mieux, parce que ça se peut qu'on merge certains types de qubits pour gagner en efficacité. C'est difficile de le savoir. Par contre, ce qu'on sait, et qui est clair et net, il faut préparer tous ces algos à faire tourner sur ces machines. Ça prend du temps, ça demande du jus de neurones et il faut qu'on forme plus de gens. On est déjà en pénurie de talents, c'est-à-dire pour une personne qu'on sort des écoles en quantique, cette personne-là, dans une boîte, il faut qu'elle éduque les autres dans les services. C'est comme lui à préparer le terrain. Et si les entreprises ne s'y mettent pas maintenant, quand les machines vont marcher, elles seront en retard. Et start-up ou ceux qui auront commencé, qui vont prendre un avantage colossal.
Oui, alors ça, je peux confirmer que nous, en tant qu'équipe de recherche, on est fréquemment abordé par des, y compris des gros industriels français ou des grosses banques, qui viennent nous voir et qui nous disent « Ah, il y a le plan national quantique, on veut s'y mettre, voilà nos use cases, ils veulent collaborer avec nous. » Puis on discute 5 minutes avec eux et enfin là, je ne veux pas généraliser. Hein, on a été abordé par des gens très compétents, mais parfois, on a été abordé par des gens et on se disait « Mais ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. » Et ça, ça fait peur de se dire qu'il y a des investissements de l'État sur des technos qui sont superbes et qui valent vraiment le coup d'investir, mais que bah, parfois les industriels sont juste en très très grand manque de compétences. Et on peut avoir, enfin, il faut mettre l'argent, mais il faut aussi mettre les compétences derrière si on veut réussir à faire quelque chose. Et d'ailleurs, je voudrais souligner le fait que on met souvent les deux buzzwords l'un à côté de l'autre, l'IA et le quantique. Mais ce n'est pas la même chose. Dans le domaine de l'IA, du machine learning, vous prenez un ingénieur, vous lui filez un ordinateur, vous lui dites « Allez, maintenant, il faut que tu me prédises le nombre de sandwichs qu'il faut mettre dans les racks, dans les stations d'essence en juin. » Et il va vous pondre un truc, il va faire quelque chose. Alors que dans le quantique, si vous prenez même des très bons ingénieurs, mais qui n'ont pas été formés, vous en prenez 10, vous leur donnez 1 million d'euros, vous revenez dans 3 ans, ils n'auront rien fait, ils n'auront absolument rien fait.
Ouais.
Pour deux raisons fondamentales. Il y en a une, c'est que la théorie du quantique est complètement contre-intuitive. Voilà, je me mets à parler de probabilité négative, tout le monde pense que je délire, mais non, en fait, c'est comme ça, c'est contre-intuitif. Et aussi, pour une autre raison, c'est que expérimentalement, c'est hyper, hyper délicat. Ce qui fait que tout le monde ne peut pas s'y lancer, quoi. Et donc, il faut vraiment former. Et de ce point de vue-là, à l'Université de Paris-Saclay, on met vraiment le paquet. On a créé un DU d'un an où on a des super promotions avec des ingénieurs, des centraliens, des normaliens, des universitaires et même des gens issus de l'industrie qui viennent faire une année. Et puis, on a fait aussi un parcours informatique spécialisé là-dedans, qui s'appelle Quantum and Distributed Computer Science. Voilà, c'est le nom du parcours. Donc on essaye vraiment de former les cerveaux pour essayer de participer.
Et c'est ça qu'il y a d'intéressant actuellement, c'est on voit poindre une nouvelle génération et des formations. Et c'est là aussi où je vais rebondir. C'est il y a en effet l'INRIA, l'Université de Paris-Saclay, mais même l'EPITA vient de lancer une majeure quantique après sa mineure. Elle a été annoncée cette semaine. Évidemment, des télécoms, toutes les grosses écoles d'ingénieurs, mais c'est en train de sortir. Et un autre point, et c'est là où moi je suis contente chez OVH Cloud de pousser ce projet, c'est de mettre l'accès aux émulateurs quantiques gratuitement dans les prochains mois, et en particulier les Européens, de créer la possibilité d'apprendre à développer sur nos machines qui vont sortir de terre d'Europe et d'avoir les bons outils entre les mains. Et donc là, actuellement, par exemple, on a Perceval qui est l'émulateur qui simule le comportement photonique de Candela. Ça peut aller jusqu'à 20 qubits simulés et c'est gratuit. On va en mettre plein d'autres. Et ça, c'est une chose aussi importante, c'est que l'écosystème français se doit d'être fort et cohérent et même européen, parce qu'il y a quand même une guerre importante. Est-ce que c'est les Chinois, est-ce que c'est les Américains, ou est-ce que c'est l'Europe qui peut remporter cette course du quantique? Et on a quand même poulains incroyables en Europe et en France. Et il faut qu'on les accompagne, qu'on les aide. Et si tout le monde s'y met, on a quand même de faire des choses incroyables tous ensemble et d'être sur le devant de la scène. C'est un avantage, une fois que ça va marcher, c'est reprendre toute l'avance technologique. Hein. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un petit changement de paradigme. Et si on rate ça, et ben là, ça va être compliqué de ne pas continuer à manger du GAFAM et d'être sous le couperet des autres régions du monde. Et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est qu'on est super fort, on forme, on a des talents, on a des ingénieurs incroyables, des scientifiques incroyables, mais on n'y met pas encore assez les moyens en Europe, et là, il faut y aller. Là, c'est maintenant, c'est dans les deux prochaines années. Après, ce sera trop tard, et on va faire comme dans l'IA, comme dans l'informatique, on va encore faire des ratés. Et quand Pablo, il dit, bah, on a des gens qui ne sont pas assez éclairés, qui viennent nous voir, il faut qu'on aide ça et qu'on le bouge. Hein. C'est primordial parce qu'on a vu ce que ça a déjà fait et il y a des telles possibilités, on est tellement bon que moi, je suis vraiment très fière pour le coup d'être française et européenne. Hein. C'est génial.
J'ai du coup deux questions liées à ce que vous dites. Si quelqu'un, je ne sais pas, qui est un développeur, enfin, quel type de profil peut se respécialiser dans l'informatique quantique ? Est-ce qu'un développeur classique peut espérer faire une formation et se diriger dans ce domaine ? Ou est-ce que, parce que là, on a beaucoup parlé de théorie, on parle de machines aujourd'hui qui servent en fait simplement d'outils de test complètement théoriques sur des algorithmes pour voir si vraiment nos prédictions se confirment ou pas. Est-ce que c'est un domaine dans lequel il faut être chercheur fondamental pour espérer faire avancer les choses ? Ou est-ce qu'un informaticien classique peut se dire « Bon, bah, je vais essayer d'explorer un petit peu l'informatique quantique et peut-être… »
Du code. Ouais. Ça va dépendre. Si tu es un développeur HTML, fichier CSS, ça va peut-être cliquer un peu. Mais alors, je réponds pas, puis après je te laisse la parole. Mais non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi de voir que de plus en plus dans tous ces types de formations, et on voit par exemple des doubles licences biologie informatique sortir, il faut maintenant être multiculturel. Et c'est hyper important qu'on ait des physiciens du quantique, mais des ingénieurs qui le comprennent aussi. Mais on va mixer des gens de parcours différents et ils vont s'apporter l'autre, parce que de toute façon, il faut faire marcher la physique quantique dans l'ingénierie. Après, il faut des mathématiciens, des développeurs classiques. Et dans l'IA, c'est pareil, il y aura des choses à faire. On peut aider les gens de l'IA à s'acculturer. Et l'autre avantage qu'il y a, et c'est Alain Aspect lui-même, notre prix Nobel de physique, qui le dit, c'est toute personne qui s'est acculturée au quantique, qui a compris les principes, etc., il est upgradé, en fait, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est hyper intéressant d'aller s'acculturer, d'apprendre des choses, parce que de toute façon, ça ne fera que vous améliorer aussi dans ce que vous faisiez auparavant. Et ça va vous donner d'autres ouvertures et d'autres façons de voir les choses.
Pablo, sur la question de la formation, ouais.
Oui, alors, ça dépend déjà ce qu'on veut faire. Si on veut faire du hardware, c'est pas la même chose que si on veut faire du software, des algorithmes, de la programmation, etc. Si je veux faire du hardware, j'ai vraiment besoin de physiciens qui ont des doctorats, qui ont fait des manips. Ça s'improvise vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais bien sûr, autour d'eux, c'est normal qu'il y ait toute une équipe de gens qui vont programmer le simulateur, l'interface, etc. Donc peut-être que pour un docteur, il y aura, trois ou quatre autres personnes. Dans le software, j'ai envie de dire... j'ai envie de dire que si je suis un investisseur, j'ai quand même... pas mettre un euro sur une entreprise où il n'y a pas un docteur, au moins. C'est-à-dire que y a quand même une question de...
On est quand même dans de la recherche fondamentale, quoi.
C'est vraiment une logique différente. Et si on n'a pas passé 3 ans à se prendre la tête, à essayer de vraiment réfléchir selon cette logique, on ne va pas réussir à s'improviser dans ce thème. Mais encore une fois, il va y avoir 3-4 docteurs, mais derrière, il peut y avoir une dizaine d'ingénieurs qui vont programmer, qui vont faciliter, des commerciaux, etc.
C'est un domaine qui est vaste, quoi. On peut l'approcher de différentes par différents chemins, quoi. Presque comme un parcours quantique dans un train qui va à Perpignan, en quelque sorte.
Ouais, mais si on regarde d'ailleurs toutes les startups actuelles, hein, elles sont toutes issues de labos de recherche avec des doctorants, souvent des grands chercheurs français. Et je ne dirais pas d'ailleurs le nombre de startups où Alain Aspect est pas loin derrière dans l'arbre généalogique. Hein, et on peut y voir derrière des Philippe Grangier, des Pascal Sonnellard,
On est encore à un stade où on trouve les origines de l'entrepreneuriat dans la recherche fondamentale, quoi.
Une petite famille, tout le monde se connaît, etc. Par contre, c'est en train de grandir, c'est en train de fasciner, et il y a un potentiel tel que c'est génial.
Du coup, Fanny, avant de conclure, j'aimerais que tu nous fasses un petit topo quand même. Tu parles beaucoup de, c'est ton travail, ta spécialité, des acteurs français et de leur force, et européens. Quels sont les acteurs du coup de cette industrie aujourd'hui qui sont, alors on parle beaucoup des GAFAM effectivement, de Google avec, enfin c'est D-Wave je crois, il y a Candela, il y en a plein. Qui sont les acteurs et comment, à quoi ressemble le panorama de l'informatique aujourd'hui, de l'informatique quantique?
En effet, il y a ce qu'on appelle les hyperscalers, donc Google, AWS, Microsoft qui s'étaient lancés, hein, qui n'ont pas voulu rater ce tournant-là et qui en avaient les moyens, qui ont créé des équipes de R&D et qui essayent même de développer leur propre ordinateur. Bon, on a vu que Microsoft, par exemple, et qui est parti sur le Fermion de Majorana, il a dû reculer parce qu'ils n'arrivent pas à sortir quelque chose. Google, par contre, de son côté, avance et fait des belles avancées. On a IBM qui fait beaucoup de belles annonces, qui a Jay Gambetta à sa tête, qui avance très bien, qui font beaucoup de promesses. Après, ils sont très forts sur le marketing. Hein. On parle beaucoup toujours de toujours plus de qubits, mais on ne dit pas jusqu'à quelle efficacité ils ont. Ça change un petit peu, mais c'est important. Et puis, on a D-Wave. D-Wave, c'est un autre type d'ordinateur quantique. On dit adiabatique, donc ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la machine parfaite avec des portes quantiques. Mais par contre, ils avancent tous les ans dans leur fonctionnement et ils ont de plus en plus de puissance. Eux, ils sont à plus de 2000 qubits, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ils servent pour des tests à la NASA. Ils ont vendu des machines. Et puis après, on a l'écosystème européen. Et là, on a des startups. C'est plus des grosses startups. Qui se sont lancés. Donc en France, on a Candela, Pascal, Alice and Bob, Sequence qui a été annoncé hier, qui sort du CEA Leti, avec derrière sa tête Maud Vinet et Tristan Meunier. Il y en a une autre dont je n'ai plus le nom en tête, il faut que je les re-rencontre, sur les tout ce qui est ion piégé. Donc ça, c'est les cités techno-françaises. Et puis, on a des grosses startups qui ont levé beaucoup d'argent aussi en Europe. Il y a des Finlandais qui sont très prometteurs, IQM, AQT aussi, qui a d'autres façons de fonctionner, qui est intéressante. Et tout ce petit monde-là communique, échange, et il y en a plein d'autres. Hein. Ça, c'est juste le hardware. Et puis après, on a le software qui est en train de se développer. C'est là où nous, on est un petit peu faible. On a quand même des multiverses, des boîtes comme ça qui se lancent, des RITD. Et voilà.
J'ai l'impression que c'est quand même les gros, en gros, les GAFAM, avec IBM à côté en plus. Et puis à côté, c'est plein de petites startups prometteuses. Et puis, il y a accessoirement le truc que tu as mentionné tout à l'heure, le gouvernement chinois qui pousse pour avoir de l'importance dans ce domaine aussi. Mais du coup, en Europe, c'est beaucoup de startups et de labos de recherche, c'est ça? On n'a pas un gros acteur qui rivaliserait avec d'autres. Je vois que Pablo se...
Ouais, alors, je pense qu'il faut mentionner Atos.
Voilà, c'est là où OVH Cloud, par exemple, a acheté en juin, il a annoncé une machine d'Atos. Donc, c'est un émulateur quantique. Ce n'est pas un ordinateur quantique, ça émule le comportement de tous les types de qubits existants. Non bruité, et ça peut aller jusqu'à 40 qubits non bruité.
Mais tu parles d'émulateur depuis tout à l'heure, mais si on peut émuler des qubits avec de l'informatique classique, quel intérêt de vraiment avoir des qubits au final?
Ça permet de programmer et de faire tourner les algos juste dans le Q8, du coup, mais ça ne te permet pas d'avoir la puissance et la rapidité de la machine définitive. Ça te permet de son comportement et de tester que tout ce que tu as programmé marche bien, mais ça ne te donne pas encore davantage, ça ne te donne pas encore la puissance de calcul, et puis il en faudrait beaucoup et ça consommerait beaucoup.
D'accord. Donc,
c'est ça, c'est que tu vas pouvoir émuler 30, 40 qubits, et puis au-delà, tu ne pourras plus.
D'accord. Ah, et en plus,
c'est... de voir comment l'algorithme aurait tourné jusqu'à 30, 40, et puis après, il faut juste se dire, ah bon, bah, ça marchait jusque-là.
Tu n'as pas la vitesse de calcul en plus. C'est-à-dire que tu vas le faire tourner, mais il ne va pas tourner à la même vitesse que sur une vraie bécane après, à la fin. Donc, c'est ça qu'il y a d'intéressant et qu'il faut comprendre. Mais on est obligé d'en passer par là.
Bien sûr.
Pour voir ces programmes qui fonctionneront quand la machine arrivera. Par contre, ça va être génial. Le jour où on va nous dire on a une machine à tant de qubits logique, intriquée, qui fonctionne bien et qu'on balance les algos et qu'on voit que ça marche, là, ça va être... Alors, ça sera peut-être la déception aussi. Mais il y a quand même un truc. Moi, j'attends ce jour-là. Je pense que dans 10, 15, 20, 30 ans, je serai encore là pour le voir et j'espère être pas loin de la machine et de fêter ça.
Avec le champagne.
Il y a un type de nouveau vaccin ou des nouveaux médicaments. Quoi. Il y a des promesses de fête, mais imaginez sur un sujet comme le Covid, par exemple. On a déjà vu grâce à l'IA qu'on est passé de 18 mois à 5 ans pour simuler un vaccin. Il faut pas oublier que l'importance de l'informatique dans l'accélération. Au lieu qu'on fasse tout en éprouvette à la main, un par un, on simule tous les comportements et on enlève tous les comportements à risque et on finit à tout ce qui est biologiquement, tout ce qui est compliqué, tout ce qui pourrait fonctionner. Et là, maintenant, on pourrait simuler quasiment la totalité des échecs et se dire il nous reste 10 trucs à tester en vrai. C'est un gain de temps phénoménal, c'est un gain sur de ne pas tester sur moins d'animaux, sur moins de gens, d'éviter des effets secondaires. Elle me fait du rêve. Elle est complexe, hein, c'est qu'une promesse, mais n'empêche, on est en train d'essayer d'aller vers ce genre de choses et on a vu déjà ce que ça a fait en informatique classique, quoi.
C'est bien que tu nous donnes cet exemple parce que malgré notre, et on le comprend bien, on reste un petit peu théorique quand même, on est à des stades de tests, de recherche, mais c'est bien que tu nous donnes un exemple concret parce qu'on se dit dans 10, 15, 20 ans, quand on aura une machine qui fonctionne, qu'est-ce que ça va changer pour notre quotidien ? Tu nous as donné cet exemple, Pablo, et puis on va conclure, mais Pablo, est-ce que tu aurais un autre exemple d'un truc, alors encore une fois, on ne sait pas parce qu'on est à un stade de recherche, mais un truc que tu espérerais pouvoir accomplir, qui aurait des conséquences sur notre quotidien ou notre société, une fois que les machines quantiques fonctionneront de manière fiable ?
Bon, alors, moi, je travaille directement sur cette question de simuler les particules fondamentales de la physique. Et je me dis que si je peux simuler les particules fondamentales de la physique, après, on peut tout simuler, puisque tout est issu de ça. Mais bon, bref.
Ça m'intéresse, moi. Si on commence à parler de physique quantique et d'espace-temps, mais peut-être que ça sera le sujet d'un autre épisode. Mais...
Le but, c'est d'ingénierer des petites choses, quoi. Ingénierer des molécules pour des buts spécifiques, ça, je pense que ça va être la grosse killer app. Mais sinon, il y a tout un tas de trucs très clairs. Donc, par exemple, on sait que quand on aura un ordinateur quantique, on pourra factoriser des grands nombres. Et donc, c'est ça qui menace la crypto à clé publique d'aujourd'hui. On a aussi un espèce de couteau suisse. C'est l'algorithme de Grover. Et l'algorithme de Grover, en gros... Ça sert à peu près à tout et ça vous met une racine carrée. C'est-à-dire que si un truc se fait en 10 000 étapes, et on fait racine carrée, ça va se faire en 100 étapes sur un ordinateur quantique. Mmh. L'algorithme de Grover, c'est vraiment. Ça accélère tout un petit peu. Quoi.
Donc, pour être clair, c'est un algorithme qui fonctionne en informatique quantique. Avec qui fonctionne dans toutes les informatiques, mais qui est vraiment utilisable concrètement. Et en informatique quantique, et le jour où l'ordinateur quantique fonctionne, l'algorithme, il est déjà prêt, quoi. Il est prêt à partir, et c'est le type d'application dont vous parlez. On le met dans l'ordinateur quantique et ça fonctionne direct, a priori.
Ça marche pour tous les problèmes brute force. Pour tous les problèmes où on n'a pas de solution très intelligente, on doit essayer A, puis B, puis C, puis D, jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Ah bah tiens, la solution, c'était, H. Eh bien... tous ces algorithmes qui sont un peu brute force, là, on va pouvoir trouver la solution en racine carrée du nombre de choses à tester.
Mmh, d'accord. Ah oui, donc ça, ça réduit effectivement de manière drastique. Bon, à moins que vous ayez encore un exemple à me donner l'un ou l'autre, ou même les deux, de trucs vraiment concrets, on peut commencer à conclure. Vous avez encore un exemple ou on conclut ?
Pas un exemple, mais par contre, c'est de dire aussi, parce qu'on se demande quel marché ça va toucher, bah en fait, c'est tous les marchés de la santé, voilà, Michelin, des nouveaux matériaux de pneus, c'est on touche la finance, on touche la santé, on touche, mais vraiment toutes les catégories. Tout le monde a besoin d'optimisation, de simulation. Après, c'est quels vont être les meilleurs use cases et quels sont ces use cases complexes à définir. Il n'y a pas un marché particulier. Après, ceux qui font rêver le plus, c'est ceux de la santé, c'est ceux de l'écologie et autres. Hein. C'est résoudre le problème à la couche d'ozone ou du CO2, de la captation du CO2 grâce à ça, parce que ça reste un truc qu'on n'arrive pas à faire.
Ouais.
Importante et qu'on espère résoudre.
D'accord. Bon, bah, des applications, effectivement. On sent qu'on est vraiment à la limite de... Enfin, que c'est un domaine qui est presque de la recherche. Pas fondamentalement, enfin presque, et que les applications pourraient être vraiment importantes. Bon, ben on va continuer à suivre ça en tout cas. Et si on veut un petit peu plus d'informations, si on veut aller un peu plus loin, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut soit vous retrouver, soit un lien que vous recommanderiez alors Fanny, je sais que tu es sur Twitter, je ne sais pas si c'est ce que tu voudrais mettre en avant, mais dis-nous où on te retrouve, Fanny, sur Internet, et puis je pose la question à Pablo après.
Sur Internet, en effet, sur tous les réseaux sociaux, sur mon pseudo Fanny Sparty qui me suit depuis 20 ans, dû à mes soirées geeks, mais surtout, alors sur le quantique, et pour en savoir un peu plus, on a un podcast Quantum qu'on retrouve sur toutes les plateformes tous les mois. Et puis sur French Web, les interviews des scientifiques, des gens qui créent le quantique, ça s'appelle Décode Quantum et c'est sur French Web et c'est pareil, c'est tous les 15 jours.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup. On mettra le lien au moins de ton compte Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Et sinon, le nom du podcast, tu me redis, s'il te plaît ?
Quantum et tu as Décode Quantum. Il y en a deux.
Très bien. Quantum et Décode Quantum. Pablo. Où te retrouve-t-on si on te retrouve quelque part ailleurs que dans ton laboratoire ?
Alors moi, pour me retrouver, vous pouvez venir vous inscrire à la fac. Voilà, je suis ravi de vous donner ce cours. Et puis non, plus sérieusement, bon, enfin, vous trouverez facilement ma page web et puis quelques articles de vulgarisation qui sont sur la page web.
Très bien. Bah, si tu peux me confirmer le lien de la page web, on le mettra dans les notes de l'émission également. Merci à tous les deux, c'était absolument passionnant. J'aurais voulu qu'on puisse passer 4 heures à discuter, mais peut-être une prochaine fois quand les choses évolueront. Pour ma part, c'est NotePatrick, vous me connaissez sur tous les réseaux sociaux, notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un épisode, je pense, classique. Je ne sais pas comment on a programmé les choses, ou alors peut-être encore un spécial. Mais on se retrouve très vite, donc la semaine prochaine, pour un nouveau rendez-vous tech. Merci à tous et à toutes, et à la prochaine. Ciao, ciao.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.